Libre-échange.
Ravi de vous retrouver, nous sommes sur Assoit dans Libre-Échange et comme chaque semaine, je reçois un dirigeant d'une entreprise qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. C'est le président de la commission investissement, compétitivité et compensation industrielle, c'est Mohamed Fikrat, qui est aussi le président de Cosimar, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci beaucoup, c'est Fikrat.
Merci beaucoup pour l'invitation, c'est Amir, c'est Mehdi.
Et pour m'accompagner et représenter la Vieco, c'est Mehdi Johari qui fait le déplacement cette semaine. Ça va, mon cher Mehdi?
Ça va, très très bien.
Alors, on va évoquer avec vous, Sifikret, cette récente étude menée, ce rapport qui a été livré il y a quelques jours par la CGEM, donc le syndicat patronal, Confédération Générale des Entreprises du Maroc, sur la question d'économie informelle, intitulée « Économie informelle, impact sur la compétitivité des entreprises et proposition de mesures d'intégration ». Pour commencer, de manière très simple, très directe, ce n'est pas un énième rapport qu'on voit sur un sujet qu'on a déjà traité.
Effectivement, on peut avoir cette impression, mais ce qui est important de mentionner, c'est le fait que ça soit analysé et lu par les yeux et les oreilles du secteur privé. Donc c'est ça la...
C'est un regard qui est celui de la CGM, du patronat.
Du patronat, et qui permet de voir les choses de manière un peu plus pratico-pratique, puisque l'étude s'est basée surtout sur une approche participative, où il y a eu beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges avec des fédérations, avec des opérateurs, mais également avec une interaction forte avec l'administration, la haute administration, de ces différentes composantes qui s'intéressent au monde économique.
Alors on dit directement dans le rapport, je cite, « Impact sur la compétitivité des entreprises et proposition de mesures d'intégration, car l'informel est une chaîne destructrice de valeur qui crée de la précarité pour le capital humain, n'enrichit pas l'État, fait peser un grand danger sur nos tissus productifs et qui nous sommes d'agir et de prendre des mesures adéquates. » Il y a une situation d'urgence, si on comprend bien.
Il y a une situation d'urgence et il y a aussi une sonnette d'alarme qu'on essaie de tirer pour faire en sorte à ce que toutes les parties prenantes et concernées par le tissu économique national et par aussi l'émergence industrielle soient sensibilisées et soit surtout mobilisé, mais de manière collective, parce que c'est un sujet qui est très complexe et qui ne peut pas être traité par une seule partie. Vous avez bien entendu le secteur privé qui a ses responsabilités pour qu'il y intervienne. Et parmi nos premières responsabilités en tant que secteur privé, c'est de caractériser le mal, le diagnostiquer, mais avec une manière beaucoup plus organisée et plus détaillée. Il y a aussi l'État qui fait ce qu'il fait, mais on doit aussi s'associer avec lui en mode partenarial. Et il y a aussi la société civile que nous ne devons pas oublier, et bien sûr aussi les syndicats, les partenaires sociaux, parce que c'est un sujet global qui touche toutes ces parties-là. Chacune subit ses effets négatifs.
Quels sont les premiers constats importants que vous faites dans cette étude?
Nous avons fonctionné en trois temps, si vous voulez. D'abord, on a essayé d'approcher le poids économique du secteur informel et nous avons tout simplement utilisé les statistiques officielles qui sont publiées entre autres par le HCP et le ministère des Finances. Ça montre que le poids de l'informel, il est pratiquement le cinquième si vous excluez le secteur primaire, le cinquième du PIB. Deuxième lecture que nous avions faite, c'est une lecture côté...
20% du PIB, c'est ça.
20% du PIB. 20% du PIB hors secteur primaire.
Hors secteur primaire.
Voilà. Deuxième lecture que nous avions faite, c'est sur l'emploi. Donc nous avons un peu plus de 6 millions de Marocains qui travaillent dans le secteur privé. Vous avez 3 millions dans le secteur formel et 2,6 millions dans le secteur informel.
Ah, 3 millions dans le secteur formel, c'est 3 millions qui sont en fait... Déclaré à la CNSS.
Déclaré à la CNSS. Déclaré à la CNSS.
Il y a ensuite tous les indépendants, les médecins, les avocats.
Vous avez tous les métiers, tout ce qui est libéral, etc.
Absolument.
Il n'est pas dans les 3 millions.
Voilà.
Et vous avez 2,6 millions où vous avez ce qu'on appelle les UPI, les unités de production informelles. Vous avez aussi l'équivalent de tout ce qui est ce qu'on a qualifié de souterrain. Donc on a fait une caractérisation pour qualifier l'informel en trois parties. Il y a la partie UPI, les unités de production informelle, ça correspond aux acteurs économiques qui produisent un produit ou un service, mais qui ne sont pas constitués ou enregistrés en tant que société. Nous avons aussi la deuxième famille qui correspond à ce qu'on a qualifié d'économie souterraine. Vous pouvez avoir des acteurs formels, mais qui mettent une partie de leur activité en souterrain, en noir, soit en sous-déclarant le chiffre d'affaires, en faisant des sous-facturations, ou en ne déclarant pas l'ensemble de leur personnel. Et puis vous avez la troisième partie qui est illicite, c'est tout ce qui est contrebande et contrefaçon. Donc ce sont ces trois parties-là qui ont fait l'objet de l'étude.
D'ailleurs, vous nous dites que l'économie informelle pèse plus de 20% du PIB hors secteur primaire, comme vous le précisiez il y a quelques instants, et 10% des importations formelles. C'est énorme.
Exact. Là, c'est la partie contrebande. Contrebande et la partie sous-facturation.
10% de ce qu'on importe est en informel.
Malheureusement, oui. On l'a pour plusieurs raisons. C'est vrai que l'État, à travers les douanes, à travers les différents organes de contrôle, fait beaucoup d'efforts. Mais si vous voulez, c'est très difficile parce que c'est pas quelque chose de simple à traiter. Alors, la troisième lecture que nous avions faite, c'était une lecture sectorielle. Donc, quand vous prenez les 20%, comment ils sont ressentis dans les différents secteurs? Et là,
est-ce qu'il y a un secteur qui est champion?
Nous avons 4 ou 5
secteurs face à l'informel.
Nous avons 4 ou 5 secteurs qui sont très touchés. Vous avez d'abord la partie commerce, là où il y a presque les deux tiers.
Oui.
On connaît les farrachas, on connaît les commerçants du détail, etc. Donc là, on a une grande partie. Mais là, je dirais que c'est un informel qu'il faut traiter, mais qui n'est pas aussi dangereux que les autres types d'informels sur les possibilités d'émergence industrielle. Parce qu'in fine, quel que soit...
Oui, mais pourquoi vous nous dites qu'il n'est pas aussi dangereux? Quand vous avez un commerçant qui est concurrencé par des farrachas, lui-même va chercher à installer ses propres farrachas.
Exact.
Et donc lui-même va vers l'informel. Et on a vu ce phénomène ces dernières années.
À Casablanca, oui.
Mais dans toutes les villes du royaume.
Mais si vous voulez, ça
détruit de l'emploi, de la création de richesses.
Ça détruit de l'emploi, ça vous met une partie des citoyens marocains dans des situations qui ne
de précarité.
Sont pas tout à fait décentes.
C'est
des citoyens qui ne sont pas couverts, qui n'ont pas beaucoup de filets sociaux. Donc ils sont hors couverture. Mais si vous voulez, par rapport au tissu de production, ils font partie de la chaîne de distribution. Mais ils représentent quand même les deux tiers dans la partie commerce. Le deuxième secteur qui est touché, c'est le textile. C'est presque la moitié. Vous avez aussi la partie industrie agroalimentaire et bâtiment. C'est entre le quart et le tiers du poids global. Et vous avez le transport. Et le reste, elle est dispersée. Donc là, ce sont les 4 grands secteurs qui sont les plus touchés.
Le transport des personnes ou le transport
de marchandises et parfois aussi de personnes.
Mais dis Johari Lavieco.
Alors, je profite de la présence de Sifik Lachmana, qui est aussi président de la FENAGRI, donc la Fédération de l'Industrie Agroalimentaire. Et voilà, donc mis à part l'impact fiscal et sur la compétitivité, il y a aussi un risque majeur, surtout dans votre industrie. Donc déjà, parlez-nous un peu du poids de l'informel et de la nature des risques sanitaires que peuvent encourir les consommateurs marocains.
Alors comme je le disais, pour la partie agroalimentaire, il y a pratiquement le quart de la valeur qui est créée dans l'informel. Quand vous dites l'informel, vous avez des produits qui sont mis sur le marché, donc qui sont consommés par les consommateurs, mais qui n'ont pas de traçabilité et qui n'ont pas subi le contrôle de conformité par rapport aux règles sanitaires, par rapport aux règles de sécurité tout court. Et cela présente un danger pour le consommateur. Quand vous achetez un produit alimentaire dont vous ne connaissez pas la source, vous n'avez pas aucune garantie sur la qualité qu'il présente. Donc là, c'est un danger fort et malheureusement, nous avons de temps en temps des incidents, des accidents qui arrivent. Et c'est pour ça que le rôle de la société civile, elle est extrêmement importante.
La prise de conscience
pour s'interdire d'acheter quelque chose qui n'est pas étiqueté. Donc notre pays l'a mis en place plusieurs outils. Donc l'administration, il a mis un organe qui est l'ANSA. Il y a les services sanitaires et il y a aussi certaines dispositions. Je cite l'une qui est très simple mais qui est très efficace. C'est tout simplement l'étiquetage. Donc quand vous mettez une étiquette sur un produit, vous obligez le fabricant de se déclarer
qui il est, date de fabrication, date de péremption.
Exactement. Et en même temps, il est soumis à autorisation par l'ANSA. Il y a toute une vérification qui est faite. Et ça, il faut que le consommateur en soit conscient. Il doit se refuser de consommer un produit qui n'est pas étiqueté, qui n'est pas tracé, qui n'est pas connu.
C'est Mohamed Figrat, vous êtes avec nous dans Libre-Échange sur Assoit. Je rappelle que vous êtes le président de la commission Investissement, Compétitivité et compensation industrielle et que nous sommes en train de débattre du dernier rapport produit par la CGM sur l'économie informelle qui a été traité sous l'axe de la compétitivité de l'économie et donc des entreprises. Vous avez évoqué plusieurs secteurs, des secteurs de l'économie qui souffrent de l'informel et je comprends bien que le textile est le champion après le commerce puisque c'est plus de la moitié de la production dans le secteur textile, en particulier dans le prêt-à-porter, qui est dans l'informel. Alors, soit c'est de la contrebande, soit c'est de la production chez nous et qu'on retrouve de manière informelle. Alors, je suis étonné que la CGM, on n'est pas caractérisé l'informel, tout ce que j'appellerais comme l'économie du divertissement, où vous avez toute la production audiovisuelle, le cinéma, la musique, l'économie de la culture, où tout est informel, tout est piraté, ou pratiquement, ce qui n'est pas piraté est epsilon, mais peut-être aussi de l'informel dans des secteurs importants,
tourisme.
Oui, comme tourisme dans notre pays, ou dans beaucoup de villes, vous avez à l'entrée des villes des gens qui vous proposent des clés pour louer des appartements, qui est dans l'informel. Alors c'est de l'informel au sens où vous ne savez pas si l'appartement est aux normes. Vous ne savez pas s'il est assuré, etc., etc. Est-ce que dans vos débats, vous avez évoqué ces sujets ?
Bien entendu, on a couvert tous les sujets, mais comme tout rapport, nous avons des centaines de pages, on a beaucoup de documents. Et je profite au passage pour remercier toutes les personnes, toutes les associations, toutes les administrations qui nous ont accompagnés dans la préparation des données, qui ont échangé avec nous, donc plusieurs fédérations, plusieurs associations, aussi bien au niveau de tous les secteurs, et aussi l'administration elle-même qui a challengé les idées qu'on a soumises dans le cadre de ce rapport. Et bien entendu, tous ces sujets-là ont été traités, mais on était amené à se concentrer, à focaliser sur
des priorités pour l'industrie.
Pour l'industrie et dans les médias. Et sachant que ce qui s'appliquerait pour certaines industries s'appliquerait sur les autres secteurs.
Parlons un peu des mesures et des recommandations qu'apporte ce rapport. Quelles sont les principales recommandations qu'on doit avoir à l'esprit ?
Alors, l'approche globale que nous avions adoptée, c'est d'abord une approche inclusive. On est conscient que le poids de l'informel il est important. Il y a derrière des femmes et des hommes qui créent de la richesse, qui contribuent à l'économie après tout. Notre souhait, c'est de contribuer à côté du secteur public à mettre en place les conditions qui permettent de les inclure, de les intégrer dans le secteur formel, puisque cette inclusion serait très vertueuse. Il permettrait d'avoir l'effet de la taille pour industrialiser, pour améliorer ce que nous faisons. Et cette approche est également une approche plutôt participative. Donc on ne rejette pas la responsabilité sur une partie plus qu'une autre. On ne dit pas que c'est l'affaire de l'État parce que l'État ne contrôle pas suffisamment, on ne met pas suffisamment les moyens. On ne dit pas non plus que c'est le privé qui ne prend pas ses responsabilités. Mais on a milité, nous avons milité pour qu'il y ait en place un mécanisme où il y aurait une conjonction des efforts de l'ensemble, et cette conjonction des efforts doit être adaptée à chaque secteur, parce que chaque secteur, il a sa particularité. D'un côté, les professionnels, ils ont la possibilité de partager les subtilités de leur secteur, de montrer là où on peut agir, comment on peut agir. Le secteur public, à travers soit l'administration territoriale ou les ministères centraux, ils ont aussi leurs outils, leurs instruments. Et je pense que si on fait une approche disons, partenariale, on peut traiter les sujets, on ne peut pas tout traiter d'un seul coup, mais on peut fonctionner de manière progressive.
Et en synergie. Mais déjà, la vie éco.
Alors, par rapport à vos actions, donc vous avez proposé un certain nombre de volets, tout ce qui se rapporte à la lutte contre la contrebande, renforcement de l'attractivité du formel, donc plusieurs chantiers. Mais est-ce que vous ne croyez pas que la lutte contre l'informel ne mérite-t-elle pas donc une politique publique dédiée et un cadre de gouvernance? C'est-à-dire, aujourd'hui, concrètement, quel est votre souhait? Est-ce que vous souhaitez vraiment que cette question de l'informel soit portée de manière donc politique publique, c'est-à-dire une prise en compte du gouvernement? Et quel est surtout son format?
Alors, il faut d'abord reconnaître qu'il y a plusieurs instruments qui sont mis en place par l'État, qui existent déjà. Je cite par exemple l'auto-entrepreneuriat, je cite le dialogue fort et qui est très positif avec, par exemple, la Direction générale des impôts, avec la douane, qui n'ont jamais fermé leurs portes. Donc, ils écoutent les professionnels, ils traitent le sujet au cas par cas, on avance. Notre ambition, c'est d'accélérer ce processus et surtout de le généraliser. Donc, c'est ça ce que nous ambitionnons par cette étude. Et surtout, mettre en avant la priorité et l'urgence de traiter la question. Sachant que c'est un sujet qui n'est pas du tout simple. Donc, nous avons eu, à l'occasion de l'étude, à visiter certaines mesures qui ont été appliquées par plusieurs pays. Et c'est un travail de longue haleine, mais qui demande une action volontariste et une décision politique, mais collective.
Est-ce que dans les benchmarks, dans les comparaisons que vous avez faites avec d'autres pays, comment d'autres pays ont traité ces questions d'informel? Est-ce qu'il y a une mesure particulière qui a retenu l'attention du président de la commission?
D'abord, il n'y a pas que le président, il y a plusieurs présidents dans la commission. Moi, j'avais la lourde tâche d'animer et de faire en sorte à ce qu'on avance, parce que les discussions sont souvent très, très passionnelles,
oui, bien
très,
sûr.
Très difficiles.
Est-ce qu'il y a une mesure qui vous a marqué, vous?
Alors, si vous voulez, il y a trois types ou trois familles de mesures qui ressortent un peu sur les différentes mesures que nous avons vues appliquées dans plusieurs pays. Vous avez tout ce qui touche la simplification. Quand vous simplifiez les procédures, vous simplifiez tout ce qui est administratif, vous flexibilisez, là, c'est très vertueux. Ça aide à diminuer, à atténuer l'informel. Le deuxième type de famille de mesures, c'est tout ce qui touche la fiscalité. Donc, quand vous faites des fiscalités adaptées, quitte à ce que ça soit pointu.
Mais on le voit aujourd'hui, puisque vous l'évoquez aussi il y a quelques instants, il y a une mesure qui dit accompagnement dans l'intégration des unités de production informelle, et vous proposez de développer un cadre réglementaire spécifique et incitatif au sens fiscal.
Exact.
Le statut d'auto-entrepreneur que vous évoquez vous-même il y a quelques instants est un statut qui existe. Est-ce qu'aujourd'hui...
Il faut le généraliser.
Oui, est-ce qu'aujourd'hui on peut aller amener les gens de l'informel faire ce statut-là? Est-ce qu'il ne manque pas des choses concrètes du type la protection sociale des auto-entrepreneurs, la retraite des auto-entrepreneurs, et de rassurer par des exemples?
À mon avis, il faut le généraliser. Et puis l'adapter. Vous avez plusieurs types du pays.
Oui.
Les artisans, vous avez les commerçants. Donc pour chaque cas, s'il y a un rapprochement entre les associations qui les représentent et puis l'administration, que ce soit territoriale ou centrale, on peut trouver des solutions adaptées à chaque cas, mais il faut à chaque fois mettre en tête de liste pas que la reconnaissance, mais la manière de réaliser cette reconnaissance par la simplification. Alors la troisième famille que je n'ai pas encore mentionnée, c'est tout ce qui relève des nouvelles technologies.
Oui.
Et les nouvelles technologies, c'est une piste qui est très puissante et qui permet d'aider. Parce que vous pouvez accélérer le processus. Donc tout ce qui touche la digitalisation, tout ce qui touche l'automatisation et qui facilite le lien entre le citoyen et l'administration de manière générale, ou l'entreprise et l'administration.
Merci beaucoup, Simhan Fikrat, d'avoir été notre invité dans Libre-Échange sur Aswat pour cette question importante de l'informel. Et évidemment, c'est un chantier complexe, comme vous y faites allusion, qui nécessite la convergence de l'ensemble des parties prenantes pour faire avancer les choses. Je voudrais conclure, comme chaque semaine, par des tops et un flop et peut-être une info. L'info, c'est d'abord le symposium international sur le tourisme qui est lancé cette semaine à Rabat, ce mercredi 11 avril, par le Conseil de développement de solidarité. Le think tank présidé par Mohamed Ben Amour réunit tout le Gotha du tourisme. C'est l'occasion pour les professionnels marocains et étrangers de se pencher sur d'importantes thématiques, dont celle du rôle du tourisme dans l'économie mondiale, mais aussi l'économie marocaine, l'offre touristique marocaine face aux mutations, ou encore les enjeux de la digitalisation du secteur. Le flop de cette semaine, il est encore frais, il est du HCP qui a donné un chiffre que je voudrais reprendre il y a quelques jours, qui concerne le chômage des jeunes. Et les donc jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent la catégorie la plus touchée par le chômage, avec un taux de 26,5%. C'est évident, on s'y attendait évidemment, mais en rentrant plus de détails, on se rend compte que le taux de chômage le plus élevé a été enregistré parmi les jeunes qui sont âgés entre 15 et 24 ans, mais aussi ils sont détenteurs d'un diplôme, et en particulier les femmes. C'est ce qui ressort dans cette enquête nationale sur l'emploi réalisée par le Haut Commissariat au Plan. Entre 2016 et 2017, le nombre de chômeurs s'est accru de 49 000 personnes enregistrées toutes en milieu urbain, portant leur effectif global à 1 216 000 à l'échelle nationale, et ce qui fait que notre taux de chômage est passé en 2016 de 9,9% à 10,2% en 2017. Il vaut mieux finir par une bonne nouvelle, c'est le top de cette semaine, et le top de cette semaine concerne le secteur automobile. Il faut dire que cette semaine démarre le Salon Auto Expo, qui se déroulera du 9 avril à Casablanca jusqu'au 22 avril. Et en ce qui concerne le secteur de l'automobile, et en particulier la vente de véhicules, il faut dire que l'année 2017 a été une année qui a permis d'enregistrer pratiquement 170 000 ventes de véhicules, exactement 168 593 immatriculations. Et donc, c'est une augmentation de 3% par rapport à 2016. Cela représente une moyenne, il faut se le dire, de 461 voitures vendues par jour. Et selon les prévisions faites par les différentes agences et cabinets qui ont travaillé sur ce sujet, on devrait avoir une augmentation qui va aller jusqu'à permettre en 2021 de vendre 260 000 véhicules. C'est dire que l'Auto Expo, eh bien, les gens de vendeurs de voitures vont se régaler pendant ces deux semaines, et nous leur souhaitons de nous vendre des voitures moins polluantes, qui durent plus longtemps et qui nous permettent de développer la mobilité. Je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, sur Aswat, à la semaine prochaine. Vous savez où ça se passe.